facilité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, comme tous les vendredis, ce sera la libre antenne. Vous réagirez à l'actualité de votre choix. Vous nous interpellez sur tous les événements qui vous ont marqué dans l'actualité française, africaine, internationale. Je vous cache pas que ce matin, vous êtes encore très nombreux à souhaiter réagir à la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba au Gabon. Des appels également sur le lancement hier du dialogue national en République démocratique du Congo. D'ailleurs, on consacrera certainement une émission à ce dialogue la semaine prochaine. En tout cas, tous les sujets nous intéressent. Vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France. Vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook, la page officielle de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI, vos questions pour mieux comprendre tous les sujets que nous traiterons dans nos différents journaux. On va d'abord s'intéresser aux relations, vous le savez, tendues entre Washington et Ankara. Dido, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à Frédéric Gassman qui va nous décevoir à quitter la radio en décembre.
Ah, vous êtes au courant du départ de Frédéric Gassman du service des sports en décembre? Je ne le savais pas, je l'apprends en direct. Bon, il va peut-être, j'imagine, prendre sa retraite, mais on le salue bien évidemment, comme le reste du service des sports d'RFI. Vous nous appelez Diziro, c'est à 500 km de Kisangani, dans l'est de la République démocratique du Congo, et vous avez donc des questions concernant Barack Obama et Recep Tayyip Erdogan.
Voilà. En marge du sommet G20 en Chine, le président américain Obama et le président turc Erdogan vont se rencontrer. La Turquie exige l'extradition de Fethullah Gulen alors que les États-Unis s'y opposent. Peut-on espérer que cette question sera abordée et résolue lors de cette rencontre?
Oui, Fethullah Gulen, qui vit, rappelons-le, en exil aux États-Unis depuis maintenant 17 ans, il est accusé par le président turc d'être le responsable de la tentative de coup d'État de juillet dernier. Bonjour Alexandre Billette.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant des RFI en Turquie. On sait que les relations entre les deux pays sont extrêmement tendues et elles le sont d'autant plus que la Turquie, en ce moment, continue son offensive en Syrie, certes contre Daesh, mais aussi contre les Kurdes qui sont alliés des Américains. Cette question sera évidemment évoquée dans 24 heures entre les deux hommes. Mais j'imagine que le dossier Fethullah Gulen sera également au menu des discussions.
Oui, tout à fait. Bien sûr, on ne sait pas précisément ce que les présidents se disent lorsque les portes se ferment, mais il est certain que Recep Tayyip Erdogan va vouloir relancer le président Obama sur l'extradition de Fethullah Gulen, puisque c'est pour la Turquie le dossier, la priorité numéro un à l'heure actuelle avec Washington. On peut même penser que ce sera la toute première question, la première demande qui sera faite par le président Erdogan lorsque les deux hommes vont se parler. Tout comme c'était le cas d'ailleurs lorsque le vice-président américain Joe Biden était venu en Turquie la semaine dernière, eh bien Recep Tayyip Erdogan avait précisé qu'il allait d'abord et avant tout évoquer la question de Fethullah Gulen avec lui. Donc, le dossier Gulen sera évoqué. Est-ce que l'affaire sera réglée ce week-end? Non, très probablement non, même si la Turquie voudrait bien pouvoir enfin régler ce dossier et juger Fethullah Gulen sur sa participation dans le putsch raté du mois de juillet. Ankara, qui affirme avoir déjà envoyé les preuves de la culpabilité de Gulen à Washington, mais les Américains ont un autre agenda, ils prennent leur temps sur cette affaire et le président Obama devrait dire au président turc ce que les autorités américaines disent depuis plusieurs semaines déjà, c'est-à-dire que le processus d'extradition aux États-Unis est régi par la justice et non par l'exécutif politique, donc ce sera à une cour de se prononcer. Barack Obama qui va peut-être également dire à son homologue turc ce que certains officiels américains ont déjà annoncé, c'est-à-dire que les preuves envoyées par Ankara ne concerneraient pas directement le putsch de juillet, mais plutôt des faits survenus avant la tentative de coup d'État. Bref, Le plus probable ce week-end, c'est que les deux présidents resteront en quelque sorte campés sur leur position, et c'est une ambiance qui risque d'être assez froide d'ailleurs, puisque la Turquie, le pouvoir turc, accuse Washington de ne pas avoir dénoncé avec suffisamment de force la tentative de putsch du 15 juillet dernier.
Oui, et précisons, que fais-tu là, Gulen, ni fermement toute implication dans cette tentative de putsch ratée, en tout cas l'écrasante majorité des Turcs et derrière son président, les Turcs qui sont convaincus donc de la responsabilité de Gulen dans cette tentative de coup d'État. Merci Alexandre Billette, on suivra évidemment tout cela avec vous, et on vous rappellera la semaine prochaine, on a reçu et on reçoit en ce moment encore beaucoup de questions justement sur l'intervention de la Turquie en Syrie, notamment contre les Kurdes, donc on ne manquera pas de vous rappeler dès lundi, voire peut-être mardi. Dido, on a répondu à vos questions ?
Oui, allô ?
Alors, il y a un petit problème de réseau téléphone avec Dido, mais en tout cas, j'espère pour lui qu'il a eu toutes les explications nécessaires. Il est 10h15 ici à Paris. On va s'intéresser maintenant à la politique française, l'actualité politique française dominée notamment cette semaine par la démission du ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Valérie Gasse du service politique d'RFI est à mes côtés. Bonjour Valérie.
Bonjour Juan.
Et nous accueillons Oumar qui nous appelle du Togo. Bonjour Oumar.
Bonjour, Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
On vous écoute.
Le ministre de l'économie de la France, Emmanuel Macron, faut-il le rappeler, a annoncé sa démission. Peut-il avoir des chances pour les élections présidentielles? A-t-il des soutiens politiques? Pourra-t-il se rapprocher d'autres personnalités?
Alors, soyons clairs, Valérie Gasse, pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas annoncé sa candidature à la présidentielle. En tout cas, il affiche son ambition. Il dit avoir démissionné pour se consacrer entièrement à son mouvement, le mouvement qu'il a créé il y a quelques mois, En Marche. Quelles sont les chances de succès d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a une chance de remporter la présidentielle s'il se présente, évidemment?
C'est toute la question du devenir d'Emmanuel Macron, hein, et c'est sans aucun doute ce qu'il espère. En tout cas, sinon, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait depuis quelques mois. Vous l'avez rappelé, Juan, il a d'abord créé un mouvement politique En Marche, EM, comme Emmanuel Macron, ça tombe plutôt bien. Oui. Hein, et puis ensuite, avec les adhérents d'En Marche, il a lancé un grand porte-à-porte pour aller à la rencontre des Français. Et puis ensuite, il a organisé un grand meeting avec plusieurs milliers de personnes à Paris, à la Mutualité, hein, pour montrer quand même qu'il existait. Et puis, dernier acte, hein, un peu fondateur, il a démissionné du gouvernement pour être enfin libre de se consacrer à son ambition présidentielle, on n'en doute pas. Et il a pris même un risque important en le faisant, c'est celui de rompre avec François Hollande, l'homme qu'il a fait naître en politique, celui dont il a été le conseiller, puis ensuite le secrétaire général à l'Élysée, enfin le ministre de l'économie pendant 2 ans. Alors c'est sûr, hein, il a 38 ans seulement Emmanuel Macron, mais il y croit et il a envie d'y aller à la présidence. Alors bien sûr, entre l'espoir et la volonté qui sont des conditions suffisantes, elles ne sont pas suffisantes, elles sont indispensables, mais
pas suffisantes. Il faut évidemment des soutiens notamment politiques.
Et donc Oumar a raison de poser cette question, hein, et c'est un peu le point faible d'Emmanuel Macron. Son ascension, elle a été très rapide. En 4 ans, il est passé de rang d'inconnu à celui de ministre un peu chouchou des médias, des sondages. Il n'a jamais été élu, il faut le rappeler. Il n'a donc pas d'ancrage territorial. Hein. Ce n'est pas un Chirac en Corrèze, un Hollande en Corrèze, un Mitterrand dans la Nièvre. Hein. Tout ça, il n'a pas. Il n'appartient à aucun parti. Il l'a dit, il l'a redit. Il aime beaucoup d'ailleurs ça, le dire. Il n'est pas socialiste.
Enfin, il dit il n'est pas socialiste, mais en même temps être de gauche. Et il dit mon mouvement n'est ni de droite ni de gauche. Donc voilà. Tout ça est un peu flou et je me demande si les électeurs ne vont pas s'y perdre un tout petit peu.
Voilà, c'est ce qu'il va avoir à prouver. Est-ce qu'on peut exister en étant nulle part? Et surtout, en n'ayant pas d'appareil politique à son service pour mener une campagne. Hein. En Marche, c'est un mouvement, c'est tout jeune. Il revendique 50 000, 60 000 adhérents. Des fois, certains disent un peu ironiquement qu'il y en a autant qu'au Parti Socialiste actuellement. C'est à démontrer. Mais pour créer un réseau sur le territoire, ça prend du temps. Il faut de l'argent.
Il faut de l'argent et il faut donc des soutiens politiques. Et il en a quelques-uns tout de même. Ils sont peu nombreux. Mais...
Alors, il a des soutiens politiques. Il aurait des élus et une quarantaine de parlementaires socialistes hein, autour de lui. On en voit 5 ou 6 hein, dans les médias qui sont un peu actifs, notamment le maire de Lyon, Gérard Collomb.
Qui est d'ailleurs le plus connu du grand public.
Voilà, il y a un député du Finistère, Richard Ferrand, qui est aussi très proche de lui. Mais il faut 500 parrainages pour pouvoir présenter sa candidature à la présidentielle. Et cette chasse aux signatures, elle va quand même pas être simple. Et Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, a décidé de ne pas lui faciliter la tâche. Hein. Il a déjà annoncé que tous les élus socialistes qui soutiendront Macron, ils seront exclus Et donc, ça pourrait refroidir les ardeurs de certains, peut-être, députés qui voudraient une investiture pour les législatives. Alors, il n'y a pas que les socialistes, vous me direz, il peut aller chasser ailleurs. Et comme vous le disiez, Juan, il veut être en dehors des partis, au-dessus des clivages. Maintenant, dans les autres partis, il y a surtout les centristes qui pourraient être intéressés par le parcours d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, le président de l'UDI, le principal parti centriste, a dit « Bah d'accord, moi je suis d'accord pour dialoguer avec Macron, pourquoi pas ?»
Oui. Alors, quand il dit qu'il souhaite aller au-delà des clivages droite-gauche, est-ce qu'il a des soutiens à droite?
Alors, la question c'est ça, c'est chez les Républicains, on le regarde, il intrigue, il intéresse un petit peu, mais dans les cadors, hein, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, pour l'instant, ils ont surtout été très critiques hein, vis-à-vis de lui, ils l'observent. Mmh. Il y a juste François Fillon qui, là, depuis hier, a été plutôt conciliant, un peu, qui lui a dit « bienvenue au club ». Alors, on peut dire que quand même, les soutiens, les rapprochements, ça va pas couler de source. Et ce positionnement, comme vous le disiez, Juan, bah, il va avoir à prouver qu'il peut en faire quelque chose, que sa jeunesse et sa volonté de renouvellement, ça peut suffire à séduire l'électorat. C'est un pari, hein, c'est un pari qui n'est pas gagné.
En tout cas, si on en croit un sondage publié mercredi, 47% des Français souhaitent qu'il se présente à l'élection présidentielle. Alors, ils sont minoritaires chez les sympathisants de gauche. En revanche, il est quand même, sa candidature serait plébiscitée à droite, hein, si on en croit ce sondage. Bon,
bah,
à suivre.
Il va parier sur l'opinion, sur l'électorat, pour enjamber tout ça. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Hier, il était à Chalon, à la foire de Chalon, en Champagne, pour essayer de faire son premier bain de foule, son premier contact avec les Français post-ministère de l'économie. On va voir, il faut observer.
Et on verra s'il continue à exister médiatiquement maintenant qu'il n'est plus
ministre. Ça paraît vraisemblable.
Ministre. Autre question, toujours sur Emmanuel Macron, après sa démission. Moindouane, bonjour.
Oui, bonjour, Owen.
Vous êtes à Paris, soyez le bienvenu.
Merci. Oui, j'avais une question par rapport à Emmanuel Macron, qui vient de démissionner du gouvernement. Et il semble qu'en France, les anciens ministres bénéficient ou gardent certains privilèges. Je voudrais savoir quels sont ces privilèges et pour combien de temps ils les gardent. Et savoir aussi si des ministres qui démissionnent comme Macron ont un droit.
Alors, Valérie Gass.
Alors, des privilèges, ça revient souvent dans le débat. Hein. On va rappeler la règle. Depuis 2013, il y a eu une loi sur la transparence de la vie politique. Un ministre qui part touche ses indemnités d'un montant égal à son traitement de ministre pendant 3 mois. Pour le reste, sauf dans le cas où il aurait tout de suite retrouvé une activité rémunérée, auquel cas il cumule pas son indemnité de ministre et son activité. Mais c'est tout, hein. Il a plus logement, il a plus de voiture, il a plus de chauffeur, il a plus l'accès au transport ferroviaire gratuit, il a plus d'officier de sécurité. En fait, il y a une différence entre les ministres et le chef de l'État. Lui garde, entre guillemets, comme le dit Moindouane, des privilèges, avis, indemnité, chauffeur, bureau, secrétaire, officier de sécurité, bien sûr. Donc, de ce point de vue-là, le traitement des ministres est un petit peu moins favorable.
Donc, indemnité d'un montant égal pendant 3 mois.
Oui, pendant 3 mois.
Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Hein.
Non, ça a changé en 2013, eh bien, après l'affaire Cahuzac. Jérôme Cahuzac, ancien ministre de l'économie, accusé de fraude fiscale, qui avait refusé de renoncer à ses indemnités après sa démission. Ça avait un peu choqué. Il y a eu une loi, il y a eu des rectifications. On a réduit le délai pendant lequel les ministres peuvent toucher cette indemnité de fin de fonction. Et a priori, pour répondre plus précisément à Moindouane, il n'y a pas de raison qu'Emmanuel Macron ne touche pas cette indemnité s'il y a droit. La démission, en fait, volontaire ou imposée, c'est un peu la procédure habituelle pour sortir du gouvernement. Il y a une circonstance prévue où on ne pourrait pas en bénéficier, mais il ne rentre pas dedans. Il a eu une petite affaire avec les impôts, une polémique, l'assujettissement à l'impôt sur la fortune. Mais ce n'est pas un problème de déclaration d'impôt. Il a payé ce qu'il devait, il a juste été réévalué, donc a priori, pas de problème.
Merci beaucoup, Valérie Gass, et bonne journée à vous, Moindouane. Continuez à nous rappeler, si vous le souhaitez, pour d'autres questions. On continue à parler de la politique française et de Nicolas Sarkozy, qui a officialisé la semaine dernière sa candidature à l'élection présidentielle. Bonjour, Véronique Rigolet.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, chef du service politique d'RFI. Audi Romuald nous appelle d'Abidjan. Bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour à toute l'équipe de RFI.
On vous écoute.
Il y a quelques semaines de cela, Nicolas Sarkozy a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2017. Alors j'ai deux questions à ce sujet. La première, quelle raison pourrait expliquer cette décision de candidature quand on se rappelle qu'en 2012, il avait annoncé quitter la scène politique après sa défaite?
Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il a été clair. Il avait dit qu'en cas de défaite, il quitterait la politique. Véronique Rigolet, promesse non tenue.
Il n'a pas tout à fait dit ça, hein. Il va falloir être un peu précis. Ah. Il est vrai que pendant la campagne de 2012, qu'on a bien couverte ici sur RFI, entre janvier et mai, même entre janvier et peut-être le 4 mai, il a fait pression en quelque sorte. C'était un argument de vente en disant, bah voilà, si je suis pas élu, je vous quitte. C'était pour créer sans doute un petit effet de dramatisation, pour gagner des points. On sait que la bataille était quand même un peu raide avec François Hollande, mais le soir où il a été battu, que les choses soient bien claires, c'était le 6 mai 2012, et bien là, il a laissé la porte totalement ouverte, il a simplement déclaré que son rôle désormais serait différent, mais en aucun cas, il n'a dit « je ne quitterai la vie politique », il n'a pas franchi ce soir-là le Rubicon, donc le voilà de retour.
Le voilà de retour, et bien de retour avec la publication notamment d'un livre où il détaille son programme. Audy Romuald, vous avez une autre question ?
Oui, tout à fait. La deuxième question est de savoir comment il y aurait éventuellement un ralliement quand on sait que la plupart des candidats de la droite ont des programmes politiques très différents.
Pour l'instant, on compte 13 candidats déclarés.
Oui, Sarkozy est le 13e.
Voilà, exactement. Les autres ont encore 7 jours hein, pour officialiser leur candidature et déposer véritablement les parrainages. J'y arrive. Le ralliement autour du gagnant, après cette élection, cette primaire, sera bien compliqué.
C'est le but de l'exercice, si j'ose dire. C'est les premières primaires à droite. Donc on verra bien ce qui va se passer. Le seul exemple qu'on ait, c'est les primaires à gauche il y a 5 ans. On se souvient que cette campagne avait été difficile, pour vous rappeler un peu ce que ça avait été, hein, puisque c'est la seule comparaison qu'on puisse avoir aujourd'hui. Il y a 5 ans, on se souvient de Martine Aubry qui traitait la gauche de Hollande de gauche molle, on se souvient de Fabius parlant de Hollande en tant que fraise des bois ou de flamby. Mais bon, une chose est certaine, il y a cette compétition interne au sein du parti, mais quand il y a possibilité de victoire et qu'on a enfin un candidat, généralement l'histoire veut qu'on se range en tout cas derrière ce candidat. On estime que sans doute c'est ce qui va se passer à droite, qu'il y a une vraie chance, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit à droite, pour qu'il y ait l'alternative, ne pas se ranger derrière celui qui sera désigné en novembre à l'issue sans doute du second tour de la primaire. Ça voudrait dire courir directement à l'échec. Là où il y a une possibilité de victoire, généralement ça crée des bons amis.
Il nous reste encore le temps de prendre une dernière question, toujours sur Nicolas Sarkozy. Bonjour Amadou.
Bonjour Yohann et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône, on vous écoute.
Sur ce sujet, moi aussi j'ai des questions. On sait qu'il est encore sous le coup de deux mises en examen dans l'affaire Big Malion et des écoutes. Du coup, moi, ma question, c'est de savoir son calendrier politique et judiciaire, peut-il se heurter et jusqu'à empêcher sa campagne électorale.
Alors, Nicolas Sarkozy peut-il être jugé avant la prochaine élection présidentielle?
Ça, la justice le dira. Tout ce qu'on sait, c'est que, et bien évidemment, ces deux mises en examen, c'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'ancien président. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le temps politique... Eh bien, c'est pas le temps judiciaire. Le temps judiciaire est nettement plus long, en général même très long, et à défaut, eh bien, de nouveaux éléments avant novembre, date des primaires, ou bien encore avant mai, date des élections présidentielles, eh bien Nicolas Sarkozy n'a pas plus de raison d'être inquiété à nouveau, hein. À défaut de nouveaux éléments, après, supposons qu'il redevienne président, là, il aurait à nouveau une immunité présidentielle. Dans toutes les démocraties, en tout cas en France, c'est la présomption d'innocence qui prévaut. Mise en examen ne veut pas dire nécessairement coupable. Ça, c'est valable pour tous. Nicolas Sarkozy est donc présumé innocent jusqu'à preuve, bien sûr, du contraire. Il peut donc se présenter au scrutin de la primaire et ensuite, sans doute, si la justice n'a pas émis de nouvelles preuves, à la présidentielle.
Du mois de mai. Merci beaucoup Véronique Rigolet d'être venue répondre à quelques questions sur Nicolas Sarkozy. D'autres questions à la rédaction évidemment lundi. D'ici là, surtout n'hésitez pas, vous nous appelez, le standard reste ouvert, nos réseaux sociaux également, vous nous appelez et on sera un plaisir évidemment de vous répondre dans le courant de la semaine. Dans 10 minutes maintenant, la libre antenne, vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de votre choix, beaucoup de commentaires sur la situation au Gabon où l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba a déclenché, vous le savez, des violences faisant 3 morts. Le gouvernement a annoncé 1 millier d'interpellations à travers le pays. En tout cas, l'opposant Jinping continue de contester sa défaite. Il accuse le pouvoir de fraude. On en parlera longuement, évidemment, dans la libre antenne. On parlera aussi de la République démocratique du Congo. Je vois également des appels sur le Zimbabwe. Robert Mugabe est de plus en plus contesté sur le terrain. Le doigt moyen des chefs d'État africains. Doit-il démissionner? Voilà une question qui se pose en tout cas sur place. À suivre le journal. Merci de votre fidélité.
Priorité santé.